Lundi 16 octobre, date qui marque le milieu du mois d'octobre. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Aime la vie. Aujourd'hui, on va s'entretenir avec la présidente de l'Association québécoise du syndrome de la Tourette pour en apprendre un peu plus sur cette condition dont on entend peu parler. On a tous des idées un peu préconçues, des préjugés à ce sujet. On va en apprendre plus aujourd'hui sur le sujet. Il y a également notre chroniqueuse Maxime qui va être ici pour nous proposer des suggestions de frayeurs accessibles, n'est-ce pas, pour l'Halloween. Et également, vous avez peut-être assisté à l'exposition World Press Photos qui était à Montréal à l'automne. Il y a une visite guidée pour des personnes non-voyantes qui a eu lieu. On fait un retour sur le sujet avec José Boyer, Durham, tout ça et bien plus dans un instant à Aime la vie. On en entend de plus en plus parler de la réalité virtuelle ou encore de la réalité augmentée. C'est pas seulement quelque chose qui est créé pour le divertissement ou pour le plaisir. Ça peut également avoir une utilité médicale bien précise dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, on va s'entretenir avec Madame Naïma Abadi qui va nous expliquer l'une de ces fonctions-là qui pourrait être utilisée un petit peu plus tard pour simplifier la vie des usagers du transport en commun qui sont handicapés. Bonjour, Madame Abadi.
Bonjour.
Donc, l'un de vos champs de spécialisation, c'est la réalité virtuelle. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment cette nouvelle technologie-là va pouvoir être utilisée en médecine dans les prochaines années?
Ben, merci pour cette opportunité. En effet, la réalité virtuelle est de plus en plus utilisée dans le domaine médical. À prime abord, c'est utilisé pour vraiment faire pratiquer les jeunes médecins pour simuler des chirurgies afin qu'ils se pratiquent et de minimiser les erreurs. Mmh. Mais on voit de plus en plus l'utilisation de la réalité virtuelle pour traiter certaines conditions chez les patients. Et ce qui vient vraiment en tête de liste, c'est le traitement de la douleur aiguë. Par exemple, à l'hôpital Cedar Medical Center à Los Angeles, on traite la douleur parce qu'on arrive avec la réalité virtuelle à truquer le cerveau pour lui faire oublier la douleur tout en le mettant, en le divertissant avec une immersion en réalité virtuelle qui crée une sensation de bien-être chez le patient.
Ouais, j'avais déjà vu des études ou des cas semblables où, par exemple, une personne amputée, on pouvait simuler que la personne voyait en fait le membre qui avait été amputé grâce à la réalité virtuelle et ça lui permettait même donc de masser le membre qui était reconstitué virtuellement et de chasser plusieurs douleurs. C'est vraiment fou ce que la technologie va permettre dans les prochaines années. Vous, chez Embrace the Life, vous avez exploré un autre pendant ou une autre utilité de la réalité virtuelle qui devrait aider les usagers du transport en commun qui se déplacent en fauteuil roulant. Expliquez-moi pourquoi.
Bon, en fait, on sait très bien que malgré les efforts déployés de la part des municipalités et des sociétés de transport, en aménageant des espaces pour vraiment faciliter les déplacements des personnes en fauteuil roulant, ces personnes-là se confrontent encore à des nombreux défis pour utiliser les transports en commun. Et ces défis sont dus au manque de familiarité avec la navigation en fauteuil roulant dans des lieux publics, la peur de l'inconnu, le manque de confiance. Et donc, ces défis, malheureusement, provoquent beaucoup d'anxiété chez les personnes en chaise roulante et les confinent chez eux, tout en affectant, bien entendu, leur qualité de vie et leur participation sociale.
Donc, de ce qu'on comprend, c'est qu'en fait, les obstacles pour accéder au métro ou au transport en commun sont pas seulement d'ordre architecturaux. Il y a également des problèmes liés à l'éducation, c'est-à-dire comment je fais pour accéder au métro, qui est extrêmement anxiogène. Et vous avez décidé, en fait, de faciliter leur accès grâce à une espèce de capsule vidéo immersive.
Oui, mais en fait, c'est tout à fait ça, parce que nous, on se base vraiment sur un environnement réel que la personne va vivre réellement dans la vraie vie. Comme par exemple les stations métro, on prend des capsules vidéo et on les rend immersifs, 3D et interactifs. Et avec ça, on développe des scénarios d'itinéraires que la personne doit prendre pour son déplacement, quelle que soit la station de métro qu'elle va prendre. Et donc, ce qui fait, ça permet une familiarité avec les environnements avant et ça donne une motivation pour que la personne emprunte le transport en commun.
Donc, ça vient désamorcer certaines craintes, en fait. C'est que, par exemple, quelqu'un qui va utiliser pour la première fois le métro de Montréal, moi, je me rappelle, la première fois que je l'ai utilisé, j'étais tout perdu. Ça peut apparaître comme un labyrinthe, carrément. Encore plus quand il faut chercher où se trouve l'entrée accessible, où se trouve la boîte de paiement et où se trouvent également les ascenseurs. Donc, vous, ce que vous avez fait, vous avez reconstitué la station Henri Bourassa. C'est votre première phase. Et là, c'est possible de circuler à l'intérieur de la station reproduite très fidèlement, comme si on était une personne en fauteuil roulant.
Tout à fait, très fidèlement. La personne, non seulement à ça, on a rajouté une signalisation pour vraiment diriger et orienter la personne pour se mouvoir dans ce labyrinthe pour se rendre OK. Uh-huh. Et ces scénarios qui sont intuitifs dans la mesure où ça respecte le niveau de la personne. Ça veut dire qu'on n'impose pas à la personne un niveau de ou un mouvement une vitesse de mouvement. C'est la personne qui choisit à quel rythme elle doit se mouvoir et elle va interagir avec l'environnement qui l'entoure, à savoir appeler l'ascenseur, rentrer dans l'ascenseur et demander aussi l'étage auquel elle doit se rendre.
Oui, parce qu'il y a une trajectoire d'imposer, mais il y a quand même moyen de reculer, d'avancer, de revenir sur ses pas pour, par exemple, mémoriser le trajet.
Tout à fait.
Puis,
exactement ça.
Vous en êtes où dans le développement? Est-ce que vous en êtes à un stade où, par exemple, vous collaborez avec la STM ou les différentes agences de transport afin de faire connaître votre produit ou votre application?
Ben, jusque-là, on était dans le développement. Donc, on voulait rendre cette application aussi accessible. Ça veut dire qu'on va la déployer sur différents formats. Un format pour la société de transport, à savoir la STM, via leur site web. Et puis, on va avoir aussi un format qui est vraiment déployé sur le téléphone cellulaire intelligent. Donc, la personne, elle peut vraiment y accéder par son simple téléphone. Et donc, là, pour le moment, on est pour négocier avec la STM et aussi la Ville de Montréal pour montrer notre, bien sûr, capsule démonstratrice et pouvoir collaborer avec eux.
Parce que, bon, quand on pense à la réalité virtuelle, on imagine tout de suite le grand casque qu'on s'enfile sur la tête, mais votre application ou votre simulation immersive va également être disponible, comme vous l'avez dit, via une application qui sera possible de télécharger chez soi. Et donc, la veille de pouvoir prévoir ses déplacements en fonction et peut-être gagner du temps. Si on veut avoir plus d'informations, on peut visiter le site internet embracethelifevr.com. Et d'ailleurs, vous avez plusieurs capsules vidéo qu'on peut visionner sur votre site internet si on veut se faire une meilleure idée de votre projet.
Tout à fait.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui, Naïma. On vous souhaite beaucoup de succès dans la suite de vos projets. Puis on se reparle très bientôt, espérons-le, pour peut-être en studio une prochaine fois.
Très bien. Merci pour vous.
Ça fait plaisir.
Bonne journée.
Merci. Nous, on s'en va un petit intermède musical. Puis tout de suite après, on va rejoindre Clotilde.
Bonjour Kevin et bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais le syndrome Gilles de la Tourette, c'est un syndrome... Finalement, moi, je n'en connaissais pas grand-chose. Et vous, d'ailleurs, j'ai envie de vous poser la question. Jusqu'au jour où j'ai rencontré quelqu'un qui fait maintenant partie de mon entourage et dont le fils aîné vit avec le syndrome Gilles de la Tourette. Et aussi bien son fils aîné que l'entourage vivent un cauchemar, le mot est peut-être un peu fort, quoique ça peut aller jusque-là. Et donc, j'avais envie qu'on en sache un petit peu plus sur ce syndrome. Et je pense que nous avons la personne toute désignée avec Madame Mélanie Lamotte, qui est présidente de l'Association québécoise du syndrome de la Tourette, la QST. Bonjour, Madame Lamotte.
Bonjour, merci beaucoup de l'invitation.
Oh, mais je vous en prie, Madame Lamothe, comme vous l'avez entendu dans mon introduction, c'est vrai que quand j'ai rencontré cette maman tellement démunie, je suis allée faire des recherches pour elle et je suis tombée sur vous. Donc, je pense que vous êtes vraiment l'association rêvée d'abord pour nous parler un peu plus de cette maladie-là et ensuite pour nous dire à quel point vous êtes en mesure de pouvoir aider les gens parce que vous les comprenez, ceux dont les enfants sont atteints de ce syndrome.
Oui, c'est exactement ça. L'Association québécoise du syndrome de la Tourette, bien, premièrement, pour définir ce que c'est que le syndrome Gilles de la Tourette.
C'est ça, qu'est-ce que c'est?
Oui, c'est un trouble neurodéveloppemental qui affecte la santé mentale. Donc, c'est un trouble neurologique, là, du même type que le trouble spectre de l'autisme ou le trouble déficit de l'attention. Mm-hmm. On le voit par la présence de tics,
okay.
Plusieurs tics moteurs de un et au moins un tic sonore à un moment donné dans sa vie.
Alors, quand vous parlez de tic, pourriez-vous nous préciser un petit peu? On parle quoi de gestes répétitifs, des mains, des yeux, de...
Oui, en fait, ça, c'est des gestes que les gens ne veulent pas faire, n'ont pas le contrôle dessus. C'est des gestes que normalement on fait pas, comme oui, tout le monde cligne des yeux, mais à la fréquence régulière. Uh-huh. Ceux qui ont le syndrome Gilles de la Tourette, pour la plupart ont ce tic-là. Ça commence souvent par des tics au niveau du visage,
okay,
dont des clignements d'yeux, et des clignements d'yeux plus forts et plus rapides, par exemple, que la normale. Et les gens ne peuvent pas s'empêcher de faire leur tic, même s'ils ne le veulent pas. Ça peut être des grimaces faciales, ça peut être des claquements de langue, ça peut être des mouvements d'épaules, des mouvements de cou, des jouets avec les mains, des tournures de poignets, tournures de chevilles, étirements
de
jambes.
Oui.
Ça va partout dans le corps, là,
oui,
des orteils jusqu'à la tête.
Et c'est plus ou moins prononcé, évidemment, selon les cas, ou ça va en s'aggravant?
Ça change beaucoup chez une même personne au courant de sa vie.
Ah.
Et il peut y avoir des périodes de 2 mois pas de tics où on les voit presque pas et tout d'un coup, oups, il y a un nouveau tic qui arrive. Un nouveau tic qui arrive peut durer 2 semaines comme peuvent durer 2 mois comme peuvent durer 2 ans.
Mmh.
On ne sait jamais quand est-ce qu'ils vont repartir. Et c'est très souffrant pour la personne qui fait son tic parce que quand on parle de cligner des yeux, nous, ça nous fait pas mal cligner des yeux parce qu'on ne le fait pas avec une force intense puis on le fait pas avec une force intense du matin jusqu'au soir à chaque seconde. Mais ceux qui sont aux prises pris avec ce tic-là vont, par exemple, avoir les yeux rouges, des pulsations dans les yeux, des larmes aux yeux. C'est très, très souffrant.
Oui. On m'a dit aussi que les... En tout cas, c'est ce que j'ai pu observer, hein, honnêtement. C'est pas qu'on me l'a dit. Je l'ai vu. Les gens vont jusqu'à se frapper.
Oui, ben mon fils, il a le syndrome Gilles de la Tourette, il a 18 ans maintenant, puis il y a une longue période pendant presque 3 ans, là, au moins 2 ans, où il faisait un mouvement d'épaule avec son très fort, c'est comme une rotation d'épaule qui affectait son dos. Il s'est fracturé 3 fois la clavicule gauche avec ce tic-là. Mmh. Donc oui, ça peut aussi aller à se frapper, mais des fois, c'est des mouvements qui nous blessent également.
Bon, alors... Est-ce qu'il y a un diagnostic qui peut être fait? Si oui, à partir de quand et comment est-ce qu'on y parvient?
Oui, ben en fait, les diagnostics, c'est surtout parce qu'il n'y a pas de prise de sang, hein, qui c'est comme un TSA. Il n'y a pas de prise de sang ou d'examens médicaux qui vont affirmer qu'il y a le syndrome Gilles de la Tourette. Ce qui va aider à déterminer si quelqu'un a un syndrome Gilles de la Tourette, ça va être d'abord un examen par un médecin ou un neurologue qui va évaluer s'il n'y aurait pas d'autres causes de maladie autre que le syndrome Gilles de la Tourette, parce que le syndrome, c'est un syndrome et non pas une maladie, mais des fois, il peut y avoir d'autres maladies qui vont provoquer des tics.
Ouais.
Il peut aussi avoir des drogues qui vont faire des tics. Donc, c'est le travail d'un médecin d'évaluer s'il n'y aurait pas autre chose.
Okay.
Ensuite, ça va être plus un peu comme le récit de la vie de la personne personne, l'historique, quand est-ce que c'est apparu, ça a été quoi son évolution. Il faut que l'éthique ait été présente au moins une année de temps.
OK, d'accord.
Minimum. Donc, parce que tout le monde peut avoir un tic, puis que ça part, puis ça ne revient pas. Mais si les gens ont des tics qui évoluent dans le temps, en intensité, puis en endroit, puis qui ont au moins un tic sonore à un moment donné dans sa vie, là, on parle de syndrome G de la Tourette.
Et il n'y a pas seulement que les tics, hein, on parle de ça, mais il y a...
Non, c'est ça. Ça, c'est le noyau. Ouais. Ça prend ça pour avoir le syndrome G de la Tourette. Mais il ne faut pas oublier que nous, à l'association, on parle beaucoup de rayons du soleil, qui sont tous les troubles associés au syndrome G de la Tourette. Beaucoup d'entre eux, parce qu'on parle un syndrome G de la Tourette, c'est un manque d'autocontrôle sur ses comportements, sur ses pensées et c'est sur ses émotions. Donc, ça affecte le fonctionnement global du corps, là, de la personne. Alors, ce n'est pas que des tics. Les tics, c'est ce qu'on voit. C'est la pointe de l'iceberg. Mais en dessous de ça, il y a des troubles d'anxiété. Quand on parle de difficulté à contrôler ses émotions, ses pensées, on parle de TOC.
Oui.
On parle de TOC, c'est des troubles obsessifs compulsifs. On parle aussi de troubles déficit d'attention avec hyperactivité. On parle d'impulsivité. On parle de troubles de sommeil. On parle aussi de dépression. Ça peut aller jusque-là.
En tout cas, c'est quand même si ce n'est pas une maladie, dans certains cas, c'est très invalidant. On s'entend.
Oui, extrêmement. Vraiment, ça affecte le fonctionnement général d'une personne, que ce soit dans sa famille, dans son état mental, psychologique, physique, à l'école.
Oui.
Dans la société, quand on fait des sports et loisirs, par exemple, c'est sûr que ça va affecter le jeune qui va jouer au soccer dans
bien
une
sûr.
Équipe aussi. Là, ses comportements, ses douleurs, ses tics, c'est des fois aussi, ça peut avoir, malheureusement, ça peut jouer sur l'estime de soi.
Bien
sûr. De ne pas avoir le contrôle, d'avoir l'impression d'être un pantin, puis d'avoir le regard des autres sur soi, le
c'est
jugement
clair.
Des autres. Puis des fois, l'intimidation qui vient avec ça affecte la personne.
Mais est-ce qu'on peut en guérir, Mme Lamothe?
Non, on ne guérit pas du syndrome Gilles de la Tourette. C'est une condition, on est avec puis on meurt avec, mais ce n'est pas une condition qui va affecter l'espérance de vie d'une personne.
D'accord.
La personne, si elle apprend à bien évoluer avec son syndrome et non pas contre son syndrome et à trouver des stratégies, des mesures et à être bien entourée aussi dans un monde qui la comprenne, va être tout à fait capable d'avoir quand même une vie normale, mais composée de défis particuliers que d'autres n'auront pas.
Madame Lamothe, si des gens en ce moment qui nous écoutent, parce que là, le temps va nous manquer, mais on peut rejoindre comment l'association, la QTS et quel genre de la QST, pardon, quels sont les services que vous pouvez offrir?
Oui, bien, on offre des services autant à la personne qui est atteinte qu'à ses proches, son environnement, les personnes qui gravitent autour d'elle, comme les intervenants, les enseignants, et la population en général pour la sensibiliser. Alors, on a ces trois types de clientèle dans notre mission. Notre mission, c'est de soutenir, former, informer, valoriser, sensibiliser tout ce beau monde-là. Mm-hmm. Alors, on a différentes activités durant l'année. Par exemple, là, on a une super formation annuelle de l'association qui va avoir lieu le 10 novembre de 6h à 10h30, 11h à peu près à l'hôpital Rivière-des-Prairies, là où nos bureaux sont situés.
D'accord.
Et ça va être donné par Dr. Edith Saint-Jean-Trudel, une psychologue spécialiste en syndrome G de la Tourette, qui va parler justement des habiletés sociales chez nos jeunes atteints du syndrome.
D'accord.
Fait que ça s'adresse autant aux parents, aux proches, aux grands-parents, aux enseignants, aux travailleurs sociaux, parce que c'est une formation accréditée par l'Ordre des travailleurs sociaux aussi.
D'accord.
Oui.
Et c'est quand vous dites, Mme Lamothe?
Le 10 novembre.
Le 10 novembre, d'accord, d'accord. Oui. Écoutez,
on a aussi des camps pour les jeunes.
Oui, je vais être obligée de vous interrompre. Par contre, madame, vous savez ce qu'on va faire? Je vais demander à mes camarades d'une autre émission qui s'appelle Les Paractualités. Et je vais leur demander également qu'ils vous invitent. Comme ça, ce serait formidable que vous nous en parliez un petit peu plus longtemps. Mais je ne veux pas prendre trop de temps à l'émission à Kevin Breton, Aime la vie, dans laquelle nous nous trouvons ce midi. Vous comprenez, madame? Donc,
oui.
si les parents ou les gens qui nous écoutent veulent vous joindre. Ils font simplement Association québécoise syndrome de la Tourette. Ils tombent sur vous.
On a un site web, on a une page Facebook, un groupe Facebook privé,
parfait,
fermé pour les personnes touchées. Puis ils peuvent rejoindre directement au numéro de téléphone. Si vous voulez, je peux le donner.
Oh, ben je pense qu'ils vont l'avoir en ligne,
oui,
madame.
Bon.
Ils vont l'avoir en ligne.
Puis on couvre tout le Québec. Fait que n'hésitez pas à nous joindre.
Merci beaucoup, madame Lamotte. Merci de nous avoir éclairés. Et puis, ben bonjour à votre garçon. Bon courage. D'accord?
Merci beaucoup. Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Chers auditeurs, chères auditrices, en ce chaud lundi qui marque la mi-octobre, je prends un moment pour m'adresser solennellement à vous. Je m'adresse particulièrement à ces personnes qui, comme moi, se meuvent la carcasse par l'entremise d'une aide à la mobilité, qu'elle soit manuelle ou motorisée. Vous qui nous écoutez possiblement dans le confort de votre salon, les pieds au chaud, sous une couverte douillette alors que la fenêtre est encore légèrement ouverte, laissant s'infiltrer une petite brise inoffensive. Vous êtes sûrement là à siroter un latte à la citrouille, acheté dans le Starbucks du coin, mais il n'en demeure pas moins que dans la mesure du très bientôt, on parle de jours, de semaines, voire d'heures, vous aurez bientôt les souliers tachés de gadou et la mine défaite à tenter de vous réchauffer les mains sur un vulgaire café maison, parce que rien au monde ne vous convaincra maintenant de quitter le confort de votre nid, parce que l'hiver est à nos portes. Et elle compte bien entrer sans cogner et salir votre beau prélard de ses bottes pleines de slush. L'hiver arrive. J'ai prononcé ces mots fatidiques, chers auditeurs, chères auditrices, et je m'en excuse. Mais sachez qu'en ce beau lundi d'automne chaud, mon intention n'est pas de ruiner le reste de votre semaine, loin de là. Mais l'hiver arrivera, comme elle arrive chaque année, d'aussi loin que je puisse me rappeler, toutes mes prières automnales suppliant le dieu de la météo de nous faire faux bon cette année et de mettre l'arrivée de l'hiver faisant lettre morte. Oui, cette petite chronique sonne aujourd'hui l'alarme et le glas de l'automne. Terminer les longues balades le long du canal, les escapades au verger ou même sur le Mont-Royal, vos aventures semi-pédestres tirent à leur fin. Et vous serez prochainement confiné à, tout comme moi, hiberner jusqu'à ce que la neige et la glace, ces véritables sabots de Denver pour fauteuil roulant, ne fondent. Mais ne soyons pas pour autant défaitistes. Une personne handicapée et avertie en vaut deux, et vaut mieux bien se préparer à affronter décembre, janvier et février pour mieux profiter du printemps ensuite. Comment se faire? Bien, fort d'une expérience de 10 ans à me transporter seul, en fauteuil roulant, dans les rues de Montréal et de Sherbrooke, deux villes pas particulièrement reconnues pour la qualité de leur déneigement, disons-le comme ceci, j'ai développé quelques astuces que je compte aujourd'hui vous transmettre. La première serait certainement de vous faire des provisions pour minimiser les sorties inutiles, et si votre garde-manger n'est pas de mesure surdimensionnée, n'ayez crainte, plusieurs supermarchés grandes surfaces comme IGA ou Metro, pour ne pas les nommer, offre un service de livraison gratuite à l'achat d'un prix minimal pour les personnes âgées ou avec un handicap. Il est même possible de faire vos emplettes directement dans le confort de votre maison grâce à une application. Il ne vous restera plus qu'à préchauffer le four à 350, ramollir les pâtes et enfourner le plat de lasagne qui vous réchauffera le cœur le temps d'une soirée. Profitez aussi des dernières journées d'automne pour vous munir d'un long paillasson à étendre le long de votre entrée, tel un tapis rouge accueillant les plus grandes vedettes de Hollywood. Des carpettes de chez Rona ou Home Depot, non pas les plus esthétiques peut-être, mais peut-être les plus cheapettes, feront l'affaire pour absorber la gadoue, la slush et la saleté qui se seront amassées le long de vos roues lors de vos sorties à l'extérieur. Par ailleurs, préparez-vous mentalement à passer de longs moments dans votre entrée de demeure. Oui, le vestibule, ce simple lieu de passage, là où on n'a pas l'habitude de s'arrêter, deviendra, le temps d'une saison, un refuge, un havre, un lieu d'introspection où le bout des doigts gelés, la morve sur le bout du nez, vous réfléchirez à vos cellules et à combien de temps ça vous prendra encore avant de pouvoir déménager en Floride. Prévoyez le coup, donc. Laissez traîner quelques magazines à proximité, voire des vives à consommer, ou encore, préférablement, un chargeur de téléphone, tout pour pouvoir passer de longues minutes immobiles sur le tapis à attendre que vos roues et vos larmes sèchent afin de ne pas laisser vos traces partout sur le salon et dans la cuisine et devoir nettoyer le plancher pour une sixième fois cette semaine déjà. Et la partie névralgique, maintenant, concerne l'entretien de votre fauteuil roulant. Le petit check-up annuel qu'on recommande de faire au centre de réadaptation peut très bien se faire en octobre pour s'assurer que tout va bien et sinon procéder à un réalignement des roues, à la lubrification des fourches, à la vérification des freins, à la réarticulation des marchepieds et au changement des bearings, etc., 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 etc. Et attention! Les articulations du fauteuil roulant sont un peu comme celles de grand-papa, elles se raidissent l'hiver. Ce n'est pas la neige ni la slush qui causera le plus de dommages à votre mini Batmobile, mais bien le sel qui est utilisé pour faire fondre la neige, dont le calcium pourra créer rouille et corrosion sur les vis et autres parties en métal de votre fauteuil. Ainsi, un retour au centre de réadaptation après l'hiver est presque inévitable. Et en dernier lieu, permettez-moi de vous rappeler l'importance de se préparer psychologiquement à faire face à toutes ces moqueries et autres drôleries d'avant-garde qui accompagnent sine qua non chaque hiver. Placez-vous devant un miroir, tenez-vous bien droit, voyez à feindre votre plus beau sourire. Tentez de dissimuler vos simagrées lorsque inévitablement des oncles, des tantes et même des inconnus, oui, des inconnus, comme la caissière d'un Dollarama ou le chauffeur d'un taxi, vous demanderont, sourire en coin, peinant à contenir leur rire gras, convaincus d'avoir déniché la blague du siècle, « Avez-vous mis vos pneus d'hiver? » vous demanderont-ils. Oui, une blague qui se transmet d'oncle en oncle depuis l'invention de la roue. C'est inévitable, vous y ferez face. Hochez poliment de la tête, affichez un sourire courtois et quittez la pièce pour pousser un long soupir et dites-vous que le printemps approche. En terminant, je vous rappelle qu'en moyenne, Montréal reçoit plus de 300 cm de neige chaque hiver, mais que, heureusement, avant que les premières chutes ne débutent, la fin du mois d'octobre s'annonce beau et chaud et vous avez donc le temps d'en profiter. C'est ce qui conclut la première moitié de Aime la vie. J'espère que ma chronique vous a plu et vous sera utile, surtout... Nous, on sera de retour après cette petite pause avec d'autres super sujets pour vous. Vous avez certainement entendu parler du World Press Photo, cette exposition qui avait lieu au marché Bon Secours à Montréal cet été jusqu'à la fin de l'automne. Vous y êtes même peut-être allé et même si vous êtes une personne avec une perte de vision, ben vous avez peut-être pu profiter de ce rassemblement de photos internationales et journalistiques puisque le RAM, le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, ont mis sur place une visite guidée spécifiquement pour les personnes aveugles ou avec une perte de vision. On revient sur cette belle expérience un petit peu plus tard dans l'émission et dans un instant, on accueille notre chroniqueuse culture Maxime Despomerleau. Bonjour Maxime.
Salut Kevin.
Ça va bien?
Ça va très bien toi-même.
Oui, ça va bien. Ta chronique, elle est d'Adon, puisqu'hier j'étais au cinéma et je suis allé voir un film d'horreur. Je suis allé voir It, dont j'avais déjà regardé quand j'étais jeune la version antérieure. Mm-hmm. Puis j'ai bien aimé ça, ça m'a donné des bonnes frayeurs. Puis là, aujourd'hui, tu as d'autres suggestions dans le thème à nous proposer.
Tout à fait, parce que bon, l'Halloween approche à grands pas et c'est personnellement ma fête annuelle préférée. Et j'avais envie d'aller dans différents types de sorties familiales pour adultes, à l'extérieur, à l'intérieur. Donc, je me suis préparé un petit melting pot. Ouais, exactement, un melting pot. À commencer aussi, justement, moi, j'ai vu un film d'horreur récemment, le dernier film de Robin Aubert, Les Affamés. Il était en première québécoise au Festival du Nouveau Cinéma le 12 octobre et il sort au cinéma à partir du 20 octobre, donc distribué au Québec.
Dans toutes les grandes salles au Québec?
Oui, c'est ça, ouais. majorité de distributeurs, entre autres avec les films Séville. Et c'est un film qui est inquiétant, évidemment, qui est drôle, qui est touchant à la fois. Il y a la signature de Robin Aubert qui est très présente avec des éléments symboliques étranges qui restent en suspens. On a des questions qui ne sont pas répondues, un peu comme c'était le cas dans son premier film, Saint-Martyr des damnés. Donc, on retrouve un peu cet aspect-là d'étrangeté.
Est-ce qu'il veut faire une espèce de trilogie non officielle avec ses films d'horreur, Robin, ou c'est pas exactement ça qu'il y a dans les plans, là?
Non, pas du tout. Surtout qu'il y a eu d'autres films entre-temps qui étaient très, très différents. Mais c'est, je pense qu'il a travaillé 4 ans à développer Les Affamés. C'était quand même un thème qui lui plaisait. Il a tourné, justement, dans la campagne. Donc, c'est pas un film qui se passe en ville.
T'as-tu aimé ça?
J'ai beaucoup aimé ça. C'est un très bon divertissement. C'est avec Marc-André Grondin, Monia Chokri, Brigitte Poupard, Micheline Lanteau et Marie-Ginette Gay qui sont assez badass. Et ça a une signature. C'est le zombie du terroir québécois. Ça a une signature québécoise tout en ayant quand même un très grand potentiel exportable. Et voilà, je pense qu'il y a des petits moments gore, mais il y en a d'autres qui sont très, très touchants. Mais en gros, c'est de l'inquiétante étrangeté qui est parmi nous.
Ouais. Alors, ça faisait longtemps que j'avais hâte de voir le fameux contexte ou environnement d'apocalypse de zombies appliqué à un contexte québécois. C'est certain que je vais aller voir ça au cinéma à partir du 20 octobre.
Oui, tout à fait. Et puis, très, très bientôt, il y a la Marche des zombies de Montréal, donc le samedi 28 octobre. C'est la 7e édition de ce rendez-vous annuel qui rassemble bon an mal an 10 000 cadavres ambulants. C'est un mouvement mondial et la Marche des zombies de Montréal est le plus grand rassemblement au Canada. C'est dès 13h à la Place des Festivals. Le départ de la marche est à 17h jusqu'à 18h30. Sur place, il y a un espace maquillage qui va offrir un service de zombification express pour 15$ si vous voulez. Et il y a aussi sur scène Jean-François Provençal, Julien Corriveau des Appendices qui vont être là pour faire de l'animation avec Pierre-Louis de It's You Game. Conseil du public pour pouvoir réussir à sortir indemne d'un hôpital psychiatrique infesté de morts vivants. Et donc, en soirée, il y a un concert gratuit aussi avec les groupes Juicette 16 et Chocolat, le groupe rock de Jimmy Hunt, et Pop, un groupe punk rock de Toronto. Donc, c'est familial, c'est vraiment très, très accueillant et on peut soit être présent pour prendre des photos ou tout simplement s'amuser à faire peur aux passants.
Et pratiquer peut-être sa démarche de zombie si un jour on veut faire de la figuration dans Walking Dead ou un autre film série d'horreur. Si on aime moins les zombies, il y a d'autres activités à faire toujours en famille.
Oui, tout à fait. Le Grand Bal des Citrouilles, qui est un classique du jardin botanique, qui rassemble 800 citrouilles et courges décorées par des enfants dans des écoles. Et c'est aussi dans l'idée de tout savoir sur les cucurbitacées. Et c'est une animation qui est offerte tous les jours par la sorcière Esmeralda. Ça se déroule de 9h à 21h. Et c'est aussi en même temps l'occasion du côté de l'insectarium pour parler des araignées ou des insectes qui sont plutôt dégoûtants ou qui font peur. Et entre autres, les araignées démasquées à l'insectarium, on nous propose de toucher migales et autres tarentules, si jamais vous êtes
boy,
game.
C'est pas pour moi, ça.
C'est pas trop pour moi non plus. Et sinon, il y a du côté de la Ronde, c'est tous les week-ends, le Festival de la Frayeur. Donc, le parc d'attractions est ouvert, justement, les fins de semaine jusqu'à la fin du mois d'octobre. Et il y a quand même plusieurs choix de maisons hantées. La nouvelle, cette année, en 2017, elle s'appelle Cauchemar. Il y a aussi District 510 dans le noir, la ferme maudite, si on a peur des épouvantails. Et il y a aussi la Maison Rouge, qui est une sorte d'asile de clowns, et le Musée du Massacre. Ces deux dernières sont accessibles et tu en as fait l'expérience.
Oui, c'est vrai. Il y a environ... Quand le Festival de la Frayeur a débuté, là, début octobre, je suis allé tester la Maison Rouge et le Musée du Massacre pour Ami Télé, pour un reportage qui va être diffusé le samedi 28 octobre. Je suis allé avec ma collègue Jessie Archambault d'aller faire du gros travail d'investigation pour tester l'accessibilité et en même temps pisser dans nos culottes. J'ai pas pissé dans mes culottes, mais vraiment prêt. Le premier, la Maison Rouge, effectivement, c'est des genres de clowns. La fille qui nous accompagnait nous disait que c'était la moins épeurante du lot. Puis moi, c'est probablement celle qui m'a fait le plus peur. Puis pourtant, j'ai pas nécessairement peur des clowns, mais le jeu des acteurs est formidable parce que c'est pas juste un décor, une esthétique.
Non, tout à fait. Il y a des comédiens qui sont présents dans le parc tout le long.
Puis c'est la même chose avec le musée du massacre où ça donne un petit peu l'impression d'être peut-être dans une maison à la massacre à la tronçonneuse un peu avec des chirurgiens fous qui font des tests laboratoires sur des pauvres cobayes enchaînés. Fait que c'est amusant. Moi, je suis allé avant 17h, puis semble-t-il qu'après 17h, c'est encore plus épeurant.
OK, bon, ben merci, Kevin, de m'indiquer si je vais y aller ou non. En terminant, oui. J'avais une dernière suggestion. Cette fois-ci, ça s'adresse un peu plus aux adultes, puisqu'il y a beaucoup de parties thématiques dans les bars, partout. Et donc, il y en a un qui a attiré mon attention, c'est le Stranger Things Halloween Dance Party, qui est au bar Le Ritz PDB sur Jean Talon, qui est aussi une salle de spectacle qui est accessible. Mm-hmm. Et donc, c'est en fait en résonance avec la série à succès Stranger Things, qui... D'ailleurs, la deuxième saison va sortir le 27 octobre prochain, juste à temps pour l'Halloween. Alors, le 27 octobre, le soir, les amateurs de la série sont invités à se costumer en héros et vilains des années 80. La trame sonore de Stranger Things, qui est excellente, va être à l'honneur. Donc, c'est vraiment thématique années 80. C'est une série qui, je crois, s'adresse beaucoup à un public âgé de 25 à 40 ans en ce moment.
Là. Ouais.
Les nostalgiques ou ceux qui ont grandi avec les films d'horreur des années 80, ça regroupe beaucoup ces codes-là. Alors, voilà, c'est l'entrée est 5$, c'est accessible et c'est évidemment bienvenue à tous.
Et c'est le 27 octobre.
Oui, vendredi 27 octobre.
Merci beaucoup. Puis je rappelle effectivement le 28 octobre sur Amitélé si vous voulez voir le reportage où j'ai peur dans les maisons hantées. Merci beaucoup, Maxime, d'être venu aujourd'hui nous présenter cette chronique.
C'est
on se retrouve.
Plaisir.
Bon Halloween tout le monde, nous on s'en va en musique, on revient tout de suite après.
Une chauve-souris émet un parapluie, un grand parapluie noir découpé dans la nuit, par goût du désespoir, car tout glissait sur lui. Une chauve-souris émet un parapluie, émet un parapluie. Elle marchait au radar, le sommeil l'avait fui. Elle voulait se mettre à boire, se jeter au fond d'un puits. Une chauve-souris émet un parapluie, un grand parapluie noir découpé dans la nuit, découpé dans la nuit. Sans jamais s'émouvoir pour cette chauve-souris, le grand parapluie noir sortait de son étui. Il prenait sous son aile soin d'une belle de nuit qui boulevard Saint-Marcel le nourrissait de pluie. Puis le grand accessoire se mit à voyager dans son bel habit noir, son habit noir de jet. Après les palabres pour faire un peu d'osier, un avaleur de sabre le mit dans son gosier, le mit dans son gosier. Un acrobate servit le balancier, un vendeur de cravate le prit comme associé. Puis il se déplia sur une permanente, puis il se déplia car il pleuvait sur Nantes, car il pleuvait sur Nantes. Une chauve-souris, demoiselle de la nuit, une chauve-souris émet un parapluie. Elle vint chercher l'oubli au fond d'un vieux manoir où elle mourait d'ennui. Pendant que le parapluie menait au père Lachaise une vie de bâton de chaise. Un jour de mauvais temps, un jour de mauvais temps, un brusque coup de vent lui mit les pieds devant. On le laissa pour mort dans quelques caniveaux. On le laissa pour mort avec le mec dans l'eau, avec le mec dans l'eau. En voyant son squelette qui faisait sa toilette parmi les détritus et les denrées foutues, c'est la chance qui me sourit, et voilà la chauve-souris. Je le croyais perdu, le manche est revenu, le manche est revenu. Riant comme une baleine, pleurant comme une madeleine, une chauve-souris émet un parapluie.
salaire se dit oui dans le grenier de la mairie. Une chauve-souris émet un parapluie. Une chauve-souris émet un parapluie. Une chauve-souris émet un parapluie.
Alors, rebonjour, Kevin. Je ne sais pas si vous avez vu cette année, cet événement-là, le WordPress Photo, qui était présenté au marché Bon Secours. Moi, j'y suis allée il y a seulement, d'ailleurs, quelques semaines. Alors, j'ai bien ça en mémoire et je ressens encore toutes les émotions que j'ai pu ressentir face à certaines photos. Et il y a eu une expérience fantastique qui s'est déroulée et je vais en parler tout de suite avec José Boyer, du RAM, bien sûr. Bonjour. Bonjour José.
Bonjour.
José, parlez-nous de ce que vous avez mis sur pied.
Écoute, nous, c'était la première fois qu'on faisait ça. Nous, habituellement, on fait des activités au centre communautaire.
Oui.
Cette année, on s'est dit, ben pourquoi pas faire une activité culturelle, une sortie.
À l'extérieur, oui.
À l'extérieur, oui. Mm-hmm. Christine m'avait parlé de WordPress Photo. Bon, ben on a lancé l'invitation aux membres.
Mm-hmm.
Puis, il y a quelques membres qui sont venus avec nous. Écoute, il fallait s'organiser aussi pour avoir des bénévoles qui étaient capables de faire la description de photos, parce que c'est pas tous les bénévoles qui sont...
Voilà.
Qui sont capables de le faire.
Non, c'est parce qu'en plus, il faudrait peut-être que je rappelle, c'est que donc, on est au RAM, hein, et donc là, vous travaillez directement, c'est le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain. Vous travaillez avec et pour des personnes non-voyantes, et donc vous vous êtes dit, on va amener ces personnes-là voir, entre guillemets, le WordPress photo. C'est quand même
oui,
fantastique.
Exactement. On invitait les gens semi-voyants puis non-voyants parce qu'il y en a qui ne voyaient pas beaucoup non plus.
Mm-hmm.
Fait que donc, c'est ça, comme je te dis, c'était un projet pilote pour la première fois.
Oui.
On avait décidé que c'était un bénévole par deux membres, mais finalement, c'est un bénévole par membre parce que un bénévole pour deux membres, ça aurait été trop difficile pour le membre, pour le bénévole.
Pour le bénévole de pouvoir oui. décrire. Parce que là, la façon oui. dont ça se passait, les personnes non-voyantes se déplaçaient exactement, évidemment, comme tout le monde. Et lorsqu'elles se retrouvaient devant une photo, il y avait donc quelqu'un qui décrivait la photo, c'est ça?
Exactement, qui faisait la description de la photo. Parce qu'il y avait plusieurs volets. Fait
bien sûr.
On a pu avoir la chance d'arriver vers 9h30. Ils nous ont ouvert les portes pour pas qu'il y ait trop de monde en partant.
Oui.
Fait qu'ils ont été gentils, ils nous ont ouvert les portes à 9h30 pour qu'on puisse circuler bon. Déjà d'avance avant les autres.
Presque juste pour vous, quoi.
Oui, c'est ça. Puis la prochaine fois, l'année prochaine, ben, ils vont ouvrir les portes à 9h, au lieu de 9h30.
Ah, ça, ce sera encore mieux. Et je suis très contente parce que, José, vous avez eu envie. Je suis désolée, on entend un petit écho. C'est un petit problème technique qui peut arriver. J'espère que ça ne vous fatigue pas trop. Mais donc, vous avez près de vous Joanne Garneau. Bonjour, Joanne.
Oui, bonjour Clotilde.
Bonjour Joanne. Joanne, vous êtes non-voyante totalement aveugle ou...
Moi, j'ai perdu la vue, ça fait 10 ans, mais j'étais semi-voyante auparavant. Donc,
d'accord.
Je peux me faire une idée, là, quand quelqu'un me décrit quelque chose, je l'ai tout de suite en tête. Là.
Oui, c'est oui, oui, comme... oui, je comprends.
Quelqu'un qui n'a jamais vu, mais... Mm.
Bon, Joanne, lorsqu'on est voyant et qu'on est en face de ces photos-là, il y en a certaines qui nous dérangent, il y en a certaines qui nous chagrinent, qui nous bouleversent même, hein, qui nous renversent complètement. Est-ce que vous avez réussi à ressentir cela?
Moi, oui. À mon niveau à moi, là, je trouve que j'ai le même sentiment face à des photos que, mm-hmm. qui ont été décrites, parce que j'avais vraiment une bénévole extraordinaire qui avait vraiment une bonne façon de décrire la photo puis l'émotion qu'il y avait dans la photo.
Ah oui, hein?
Puis, ça prend
aussi, des bénévoles. Les dimensions, puis bon, les couleurs.
Oui.
Puis,
oui.
Il y a vraiment sur la photo s'il y a de la neige ou quoi, mm-hmm. c'est l'action qui se passe.
Mm-hmm.
Puis après ça, elle me lisait la fichette qui est accolée à chaque photo.
Oui.
Donc, c'est vraiment différent. C'est une idée générale. Bon, la photo, c'est telle affaire. Puis, vraiment, avec la description qu'elle me faisait, ben, je pouvais vraiment me représenter ce ce qu'il y avait sur la photo.
Oui, et est-ce que... Oui, je comprends, Joanne. Et est-ce que vous avez souvenance maintenant de la représentation que vous vous faisiez des photos?
Ah oui, c'est ça que j'allais dire. J'ai encore en mémoire des photos... Oui, c'est assez impressionnant.
Lesquelles, par exemple? Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné parmi toutes ces photos-là, Joanne?
Bien, il y a beaucoup de photos sur la guerre, là.
Oui.
Moussoul, ça, en Irak, là.
Oui, oui.
C'est très dur.
Oui, c'est dur,
donc,
hein?
Après un certain laps de temps, on va passer à autre chose de plus léger, peut-être.
Oui, mais il n'y a pas grand-chose de léger, hein? Avez-vous remarqué?
Non, bien, t'as les...
marcher bon secours, c'est un peu léger. Les Olympiques aussi, c'est un peu moins...
Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, mais il n'y en a pas beaucoup quand même. Hein. Je trouve qu'on y va beaucoup dans les choses sensationnalistes. Hein, et,
Oui. Hein? Ben, c'est ça, c'est pourquoi les gens prennent des photos, c'est sur des... souvent c'est des drames. Hein.
Mais...
C'est ça qui arrive, hein, c'est la vie.
Mais c'est peut-être dommage en même temps. En tout cas, moi, c'est le commentaire que je me suis fait. Je me suis dit, vous rendez-vous compte, si on passait autant de temps à photographier la beauté des choses aussi.
Mais oui, il y en a peu, parce que tu sais, la nature, il y avait quelques photos. Là. Mm-hmm. Ça, c'était vraiment intéressant. Ouais. Puis il y avait aussi les Syriens là, qui arrivent ici. Puis leur espoir, là, qu'est-ce qu'ils vivent ici. Là, ça, c'était intéressant.
C'est intéressant. Il y avait quelques photos animalières aussi, hein, qui étaient merveilleuses. Hein. J'ai souvenir, vous aussi, sans doute, de cette tortue qui est prise dans des filets.
Ouais.
Ah, c'est... Ouais. On est dans les bleus turquoises, dans les... Hein, c'est vraiment terrible.
C'est pour ça que je vous dis, c'est la qualité de la photo aussi qui est extraordinaire. Ouais. C'est la manière que nous décrivait. Puis j'imagine que quand tu les vois, c'est encore plus extraordinaire.
Bien sûr. Mais ça prend aussi un bon descripteur quand même, hein, parce que si vous avez un descripteur qui cherche ses mots puis qui vous met un « e » à tous les deux mots, ça doit être un petit peu pénible.
Ben, c'est pour ça, en trouvant les bénévoles avec des critères, on est mieux servi.
Servi, bien sûr. Ouais. Alors, c'est quelque chose que vous allez donc renouveler l'année prochaine?
Oui, c'est quelque chose qu'on va refaire l'année prochaine en espérant avoir plus de membres qui vont venir. Fait que,
OK. Ben, écoutez, vous pourrez compter sur nous pour publiciser cela, en tout cas.
Oui.
C'est sûr. Hein? Et puis, est-ce qu'il va y avoir d'autres sorties extérieures comme ça, organisées par le... Non, pas pour l'instant.
Pas
bon.
Pour l'instant, non.
Alors, on aura l'occasion de se reparler, José, puis encore une fois, José Boyer du RAM. Bravo pour cette initiative. Merci, Joanne Garneau, d'avoir pris le temps de nous parler de cette expérience que vous avez vécue au World Press Photo 2017. Merci.
Ça m'a fait plaisir.
Bonne journée à vous deux.
Bonne journée.
Au revoir. Yeah.
Attends surtout pas mon retour. Le temps s'en va et prend avec lui l'amour. Tu diras que c'est moi. Des aubes claires faisait chacun de mes sourires. Mais chacun de mes déserts. Étrange faut-il le dire. Et si le temps se pose à l'oubli, quand l'amour est plus fort, je sais ce que tu voudras faire, m'expédier aux enfers, et que j'ai brûlé mes réduits en sang sur lesquels déjà tu victimises.
C'est ce qui conclut maintenant cette émission de Aime la vie. C'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je remercie Clotilde pour son travail à la recherche. Je remercie également Mathieu à la régie, comme à l'habitude. Je peux déjà vous parler des sujets de la semaine prochaine, puisqu'on va avoir une émission bien chargée. On aura le plaisir de recevoir Jérôme Bobin de Handicap International pour nous parler, écoutez, bien d'un nouveau partenariat entre Handicap International, qui est un organisme, vous l'avez deviné, là, qui est établi dans plusieurs pays, et Airbnb, la fameuse plateforme de réservation pour des chambres d'hôtel qui se trouvent dans des logements privés. On parle d'économie du partage, là, beaucoup ces jours-ci avec Uber qui menace de quitter Montréal. Ben, Airbnb fonctionne à peu près sur le même modèle d'affaires, mais pour les voyageurs, sauf que il y a exception. Est-ce que les voyageurs avec un handicap peuvent trouver leur compte chez Airbnb? Pas vraiment. Pour l'avoir essayé, c'est assez difficile de trouver des logements accessibles à coût modique dans des villes étrangères. Mais avec ce nouveau partenariat, là, Handicap International espère pouvoir augmenter l'offre. On va en discuter avec Jérôme Bobin. Également, la responsable du théâtre aphasique, Isabelle Côté, va s'entretenir avec Clotilde pour lui présenter la pièce « Le dernier mot » qui sera présentée le 27 octobre au Petit Medley, ça promet. Puis également, on va avoir notre première sujet chronique « Finance » où on va essayer de vous parler, donner des petits trucs sur comment bien gérer son budget et son portefeuille dans le quotidien. Puis également, on va recevoir la chercheure Julie Carrier, parce que vous savez que l'automne, ça entraîne donc le cycle des saisons, le changement d'heure, le changement de luminosité dans notre vie. Ça peut entraîner certains impacts sur le sommeil, sur le cycle du sommeil. C'est justement le champ d'expertise de Julie Carrier, qui est chercheuse au Centre d'études avancées en médecine du sommeil de l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et au Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Ses travaux ont notamment permis de découvrir plusieurs mécanismes clés relatifs aux effets du vieillissement sur le cycle éveil-sommeil, ainsi que leurs conséquences sur la santé physique et cognitive des personnes âgées et également les personnes avec une perte de vision. Ben, vous le savez peut-être pas, mais le fait de ne plus voir, d'être aveugle, ça a également une conséquence sur le cycle du sommeil. Elle va pouvoir nous éclairer sur tout cela. On la reçoit alors qu'elle et trois autres de ses collègues de l'UDM ont été intronisés à l'Académie canadienne des sciences de la santé. C'est un bel honneur et on est très heureux de pouvoir l'avoir avec nous la semaine prochaine à Aime la vie. C'est ce qui conclut cette deuxième édition de Aime la vie. Je suis très content d'avoir pu passez une belle heure avec vous en votre compagnie. Je rappelle que si vous avez des commentaires ou encore des suggestions d'invités ou de sujets, vous pouvez nous les faire parvenir à l'adresse canalem@vusezvoix.com. Je vous invite également à visiter notre site internet vusezvoix.com. C'est possible d'aller chercher à la pièce chacun des sujets qui vous ont le plus intéressé. Puis on vous invite également à partager l'émission sur les médias sociaux. Merci beaucoup d'avoir été là. Moi, je vous donne rendez-vous dans 7 jours exactement pour une nouvelle émission. Et d'ici là, gardez le sourire.